Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette dernière conférence de pas à pas Bernard Seynave, qui est psychanalyste à Lille. Il est également enseignant au collège clinique de Lille. Il est également analyste membre de l'école et il est l'ancien directeur du Courtil. Voilà. Il va nous parler aujourd'hui de la formation des psychanalystes sous l'angle du contrôle. Voilà. Je lui cède la parole. Merci beaucoup.
Après tout, qu'on ne soit pas... D'abord, c'est curieux, puisqu'il faut que je regarde latéralement pour avoir un contact avec vous. Et après tout, qu'on ne soit pas trop nombreux, c'est un avantage, hein. Ça nous permettra peut-être d'échanger plus facilement. N'hésitez pas alors de m'arrêter et de m'expliquer. Donc moi, je voulais vous parler du contrôle en tant que psychanalyste, peut-être plus largement d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui compte, qui prend une place tout à fait importante et singulière pour moi-même, si vous voulez. Je souhaitais parler du contrôle en tant que psychanalyste. Et donc, je vais procéder en deux temps. D'abord, pour situer ce qu'on entend par contrôle depuis Freud, je vais reprendre un peu ce qui existe depuis Freud, peut-être de reprendre un peu ce que Lacan en a dit, et ensuite, j'allais dire mes collègues psychanalystes de l'école de la cause freudienne, pour enfin vous parler d'une expérience personnelle, de mon expérience, à moi, tout à fait personnellement et singulière du contrôle. Entrez. Voilà. Alors, donc, en fait, j'ai d'ailleurs donné un titre à mon intervention, qui est le suivant, le contrôle est bien indispensable, mais non obligatoire. Alors, donc, contrôle, psychanalyste et contrôle, au fond, en tout cas de mon point de vue, sont indissociables. Pourtant, rien n'oblige un psychanalyste d'aller chez un contrôleur pour parler de sa pratique. Rien n'oblige à ça. Le contrôle n'est pas une obligation de la formation analytique, mais, disons, c'est plutôt une conséquence de l'engagement personnel dans la psychanalyse. Il s'impose cependant parce que cet engagement entraîne aussitôt des responsabilités analytiques vis-à-vis des personnes que l'on accueille. Avant donc de m'expliquer personnellement, dans cet exposé, je voudrais tenter de cerner ce qu'il en est du contrôle dans notre école, donc l'école de la cause freudienne, dans l'AMP en fait. Tout d'abord avec Freud, hein. Reportons-nous d'abord à ce qu'il en était du temps de Freud. Alors le terme de contrôle, contrôle en allemand, est introduit pour la première fois par Freud en 1919 dans un article sur l'enseignement de la psychanalyse dans les universités. Et voici ce qu'il dit. L'insertion de la psychanalyse dans le programme universitaire serait sans doute favorablement reçue par tout psychanalyste. Mais en même temps, il est certain que le psychanalyste peut tout à fait, sans aucun préjudice pour lui-même, se passer de l'université. Vous voyez ce qu'il pense de l'université, hein ? Ce dont il a besoin au niveau théorique, il peut le trouver dans la littérature spécialisée. Et pour aller plus avant, dans les réunions scientifiques des sociétés de psychanalyse, aussi bien que par son contact personnel avec les membres les plus expérimentés. Quant à l'expérience pratique, eh bien, en dehors de ce que lui apporte son analyse personnelle, il peut l'acquérir en conduisant des cures, pourvu qu'il s'assure du contrôle, voilà, et du conseil de psychanalyste confirmé. Voilà comment il l'introduit. Et à la fin de cet article, je dirais, en conclusion sur cette question de l'enseignement de la psychanalyse à l'université, comme s'il fallait, si vous voulez, enfoncer le clou ou remettre les pendules à l'heure, il dit ceci, l'étudiant en médecine n'apprendra jamais la psychanalyse proprement dite. Donc, plusieurs auteurs, d'ailleurs, ont situé l'origine du terme de contrôle dans des rapports informels. Par exemple, Breuer, qui rapportait son travail à Freud lui-même. Freud lui-même décrivait à Fliess le déroulement de ses séances de psychanalyse et il organisait ses réunions du mercredi. Je ne sais pas si vous connaissiez ça, les réunions des mercredis avec ses disciples. Jung, par exemple, aussi se confiait à Freud dans ses correspondances. Le traitement du triance, conduit par le père interposé. L'analyste s'adresse à un confrère qu'il présente comme plus expérimenté, donc en position de supposer de savoir, pour qu'il soit à l'écoute de son acte. Alors Freud a introduit la notion de formation plus proche de l'idée d'une interrogation, d'une critique de soi, et il met l'accent sur l'analyste en tant que sujet, ce qui revient à proposer comme orientation l'analyse de l'analyste lui-même. Donc toutes ces remarques ne font que s'inscrire logiquement dans ce que Freud a toujours soutenu. Une psychanalyse se réinvente à chaque cure. On n'apprend pas avec les cures précédentes. Il faut plutôt tout oublier. Il faut que chaque psychanalyste réinvente la psychanalyse à chaque nouvelle demande d'analyse. Le psychanalyste doit être capable de tout oublier. Ce qu'il sait, disait-il, avant d'écouter un nouvel analysant, de pouvoir l'écouter dans sa singularité et d'accueillir les surprises du sujet de l'inconscient. Donc c'est jamais la même chose, c'est toujours différent et on n'apprend pas à partir de ce que les autres analysants vous apprennent. Alors c'est à partir de la fondation de la polyclinique de Berlin que le contrôle est considéré comme nécessaire aux nouveaux analystes. En 1925, lors du congrès de l'IPA, Max Eitingen reprend ce sujet et l'établit comme une pratique obligatoire. Alors il y a quelque chose qui est en train de se tordre, vous voyez, donc de quelque chose qui est indispensable mais qui n'est pas obligatoire, eh bien avec l'IPA ça devient quelque chose d'obligatoire. En 1930, la publication du rapport de l'Institut de Berlin amène l'IPA à normaliser et à bureaucratiser la formation d'analystes. Ce qui inverse le processus. Dans son origine, le contrôle était une demande de l'analyste lui-même de rendre compte de son acte. Après ça, le contrôle passe à quelque chose qui a comme référence le discours médico-universitaire dans cette forme de la bureaucratie institutionnelle. Donc les post-freudiens vont diverger quant à la fonction qu'ils attribuent au contrôle. On aura alors, disons, grosso modo, deux courants. Hein, on a le courant berlinois qui se développe sur le modèle médical, consistant à permettre d'éviter les erreurs cliniques, si vous voulez. Et alors, il y a un tout autre courant, qui est le courant promu par Ferenczi à Budapest, et qui considère le contrôle comme faisant suite à la cure proprement dite. Donc il y a d'un côté quelque chose qui serait, si vous voulez, un courant bureaucratisé, qui devrait, si vous voulez, une formation plus clinique, qui devrait permettre aux psychanalystes d'apprendre des choses pour pouvoir exercer sa fonction de psychanalyste. Et puis, il y a le courant de Ferenczi à Budapest qui considère le contrôle comme faisant suite à la cure proprement dite. Donc, il intègre, si vous voulez, du côté du psychanalyste, sa propre analyse avec le contrôle, ou le contrôle avec sa propre analyse. Et ce sont deux concepts qui s'opposent. Mais ce qui va caractériser l'IPA, c'est qu'elle va rendre le contrôle obligatoire pour les candidats psychanalystes. Donc l'établissement du dispositif de la formation actuelle du psychanalyste à l'IPA, disons le stagiaire psychanalyste de formation médicale, toujours de formation médicale, qui poursuit sa formation chez un didacticien avant d'être reconnu par ses pairs. Et ce psychanalyste, ce dispositif, candidat psychanalyste, contrôle obligatoire, en formation médicale, qu'il a une formation médicale, et donc il est suivi par un didacticien qui est son propre analyste, si vous voulez. Et ça conduit l'IPA à cette déviation de la fonction du contrôle. le psychanalyste candidat est aussi le psychanalyste du candidat est aussi son contrôleur, par exemple. Et cela fait de lui le psychanalyste didactique qui sera amené à décider si son patient, si son analysant, est capable de devenir lui-même psychanalyste. Donc il y a quelque chose de l'ordre de c'est le psychanalyste qui est le stagiaire psychanalyste, d'abord médecin de formation, qui va en analyse. C'est son analyste qui sera reconnu d'ailleurs lui-même comme didacticien. Il faut qu'il soit reconnu comme didacticien pour parvenir à, j'allais dire, à la formation du psychanalyste. Et donc il y a tout un dispositif qui sera inventé pour qu'il soit à un moment donné reconnu en tant que psychanalyste. Alors vous savez, Lacan, lui, il a combattu ce dispositif, et son opposition l'a d'ailleurs amené à se faire excommunier de l'IPA. On reprochait à Lacan de ne pas respecter, par exemple, ça. Donc cette formation du psychanalyste faisait partie des standards, fait toujours partie des standards à l'IPA. Eh bien, on en a reproché à Lacan de ne pas respecter les standards de l'IPA. Et on va lui retirer son titre de didacticien, parce qu'à cette époque-là, il était reconnu comme didacticien, et il est même interdit de formation. Ça s'est passé très concrètement en novembre 63. Donc, c'est très précis dans le séminaire 11, au début du séminaire. Pendant la nuit qui précède le séminaire du 20 novembre 63, ce séminaire, c'est celui des noms du Père, c'est pas par hasard, par exemple, aussi, que ce soit le nom, celui sur les noms du Père. Bon, Lacan va recevoir une nouvelle. Il venait d'être radié de la liste des didacticiens de la Société française de psychanalyse par la commission de l'enseignement. Donc il y avait une commission de l'enseignement, et dont d'ailleurs il faisait partie à ce moment-là. Alors, rapidement, après cette... Donc lui parle d'excommunication. Je ne vais pas reprendre ça, parce que ça a sûrement déjà été discuté dans le séminaire 11. Hein. Donc, mais après cette excommunication, Lacan fonde sa propre école. Et c'est pas, c'est quelques mois plus tard, hein, le 21 juin 64. Bonjour. Il fonde l'école freudienne de Paris. Hein, et il la fonde en ces termes, aussi seul qu'il l'a toujours été. Enfin, je souligne ça, aussi seul qu'il l'a toujours été, parce que ce seul, vous verrez que ça a une résonance, notez-le, ça a une résonance tout à fait importante. Hein, aussi seul qu'il l'a toujours été, dans sa propre dans sa cause analytique. Donc, la question de la solitude de l'analyse sera posée tout au long de son enseignement, jusqu'à son dernier souffle. Son dernier texte, qu'on trouve dans les autres écrits, dans sa préface au séminaire 11. Et donc, dans cet acte de fondation, Lacan définit ce que sera désormais la formation du psychanalyste. Comment ? Alors, on trouve ça à la page 230 des autres écrits. Il définit ce qu'il nomme la psychanalyse pure, c'est-à-dire la psychanalyse proprement dite, et puis il définit aussi la psychanalyse appliquée, et il définit le champ freudien. Alors, en ce qui concerne la psychanalyse pure, il précise ceci, c'est celle qui n'est rien d'autre que la psychanalyse didactique. Donc, vous voyez, il a déjà quelque chose d'intéressant et d'étonnant. C'est que donc, du côté de l'IPA... Pardon ? Il subvertit complètement la chose. C'est-à-dire, du côté de l'IPA, il ne pouvait y en avoir que quelques-uns qui se présentaient chez le psychanalyste pour devenir eux-mêmes psychanalystes, et puis il y avait tous les autres. Eh bien, lui, ce qu'il dit, c'est une psychanalyse est didactique. Alors, définir de cette façon la psychanalyse pure, c'est défendre un principe qui s'oppose à ce que soutient l'IPA, ou c'est le didacticien à l'IPA qui décide et qui est ou n'est pas psychanalyste. Qui est ou qui n'est pas psychanalyste ? C'est le didacticien qui va décider ça. Ici, quand Lacan dit que la psychanalyse pure n'est rien d'autre que la psychanalyse didactique, cela aura pour corollaire cette thèse de Lacan qu'il va défendre, celle de la passe, et pour conséquence que le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même. et que ce n'est pas le didacticien qui décide qui est psychanalyste. C'est un pavé dans la mare quand même. Alors, dans le contexte de la création de son école, c'est-à-dire en juin 1964, hein, après qu'il a été démissionné de la Société française de psychanalyse, Lacan se devait de repenser la formation du psychanalyste. Il en donne les axes dans son texte de fondation, il dit ceci, je paraphrase Lacan. Il dit d'abord que la formation didactique est un problème urgent à régler. Il dit que cette formation va devoir se faire par la voie d'une confrontation entre le candidat en formation et un analyste qui a une expérience didactique. C'est lui qui dit ça, hein, mais c'est dans son texte de fondation. Et il ajoute que ce dispositif trouve sa raison d'être sur le besoin qui résulte des exigences professionnelles chaque fois que l'analysant en formation a à prendre une responsabilité analytique, si peu qu'elle soit. Et il précise que c'est à l'intérieur de ce problème que doit être situé le contrôle. Donc il dit déjà là que le contrôle doit s'inscrire dans ce dispositif. Donc il définit le contrôle tout à fait autrement que ce qu'est la formation du psychanalyste à l'EPA, soit tout autre chose que des critères qui sont fondés, alors je reprends les termes de Lacan, hein, qui sont fondés sur des impressions, l'impression de tous et les préjugés de chacun, car on sait, ajoute-t-il, que c'est actuellement la seule loi. Donc il y a là quelque chose qui existait, qui existe peut-être toujours d'ailleurs, je n'en sais rien, hein, du côté de l'IPA, qui est au fond un donnant-donnant, un consensus, quelque chose qui, un échange, je reconnais le tien si tu reconnais le mien. Enfin, vous savez, quelque chose qui n'est pas, qui est inscrit dans un registre purement imaginaire. Et Lacan ajoute, qui est une précision importante, que de cette façon, je romps avec les standards affirmés dans la pratique didactique. Donc, dans son texte de fondation de l'école, il précise encore que la psychanalyse pure, n'étant pas une technique thérapeutique, c'est aussi à noter, c'est important de le savoir encore maintenant, hein, son exercice ne s'arrête pas à son recrutement, à la qualification médicale. Bon, il revient, d'ailleurs Freud avait déjà dit ça, lui il le reformule encore une fois. La psychanalyse n'est pas une technique thérapeutique et par conséquent, elle ne doit pas être exercée exclusivement, je dirais, par un médecin, comme c'est le cas à l'IPA. Alors, il y a une note qui est jointe au texte de la fondation de son école. Et dans cette note qui accompagne son acte de fondation, Lacan donne une précision que je trouve vraiment importante, qui concerne le désir de celui qui veut occuper cette place d'analyste. Il dit ceci. Il dit que si une psychanalyse a pour vocation de former un analyste, si une psychanalyse est en soi constituée didactique par le vouloir de ce sujet, il ajoute quand même que le sujet doit être averti de ceci, c'est que l'analyse contestera ce vouloir. Donc s'il dit, ça arrive, hein, moi ça m'arrive régulièrement, je viens faire une analyse parce que je sais que c'est pour être psychanalyste, il faut faire une psychanalyse. Et donc lui dit ceci, il dit que l'analyse elle-même va contester ce vouloir à mesure même de l'approche du désir qu'il recèle. Toujours dans cette même note, sur son texte de fondation, il apporte une précision supplémentaire qui rompt le contrôle indispensable à celui qui exerce la psychanalyse. Je vais éteindre ça. Par contre, remarque Lacan, comment ne pas voir que le contrôle s'impose dès le moment de ses effets, et d'abord pour en protéger celui qui y vient en position de patient. Donc, vraiment là, il crée son école et il articule immédiatement la question du contrôle. Il faut bien dire que c'est ça qui était le problème pour lui, hein, puisque dans l'IPA, il a contesté la façon dont les psychanalystes étaient formés. Il a contesté ce système d'analyse didactique. Et donc, quand il reconstruit son école, quand il fonde son école, eh bien, là, il dit très clairement, le contrôle, ben, ça s'impose aux psychanalystes. Donc, selon Lacan, le contrôle s'impose au praticien par les effets de sa propre analyse. C'est-à-dire que c'est dans sa propre analyse, le psychanalyste analysant lui-même, eh bien, s'aperçoit de la nécessité de ce contrôle. On va essayer de déplier ça. Pourquoi c'est comme ça? L'analysant n'est pas soumis aux normes préétablies et dictées par les standards, mais il prend la responsabilité de son acte, de ses décisions, et il prend les risques de sa pratique. Vous savez, depuis toujours, cette question de la formation du psychanalyste, ça interroge Lacan. Qu'est-ce que la psychanalyse? Alors, dans un texte qui était plus ancien, qui date de 1955, et qui a pour titre « Variante de la cure type », ce texte a d'ailleurs été retiré de l'encyclopédie médico-chirurgicale. Il donne une réponse surprenante à cette question, mais qui est fondamentale. Et vous allez voir le tour de passe-passe qu'il fait. Il donne une réponse surprenante à cette question. Il dit ceci. Qu'est-ce que la psychanalyse? Il répond, une psychanalyse, c'est la cure qu'on attend d'un psychanalyste. C'est ainsi que Lacan rappelle que dans cette première leçon du séminaire 11, qui est donc ce séminaire où il a été, qui a commencé par son expulsion, son excommunication, il dit ceci, dans une boutade. J'ai pu, il y a un temps ironique, il y a un temps, provisoirement peut-être, mais aussi bien faute de mieux, dans l'embarras où je pouvais être, définir un critère de ce qu'est la psychanalyse, à savoir le traitement distribué par un psychanalyste. Et alors, donc c'est Henri Hay à l'époque, qui est ici aujourd'hui, dit-il, de la salle, se souviendra de l'article en question, puisqu'il fut publié dans ce tome de l'encyclopédie qu'il dirige. Il me sera d'autant plus aisé d'évoquer, puisqu'il est présent, le véritable acharnement qui fut mis à faire retirer de la dite encyclopédie le dit article, au point que lui-même, dont chacun sait la sympathie qu'il m'accorde, fut en somme impuissant à arrêter cette opération conçue par un comité directeur où se trouvaient précisément des psychanalystes. Donc, au fond, cette réponse au fond, remet les pendules à l'heure et les psychanalystes face à eux-mêmes. Parce que ça dérangeait très fort de la réponse. Qu'est-ce qu'une psychanalyste? Eh bien, c'est la psychanalyse que chacun fait chez son psychanalyste. Mais ça remet les pendules à l'heure. Pourquoi? Parce que la question ne porte plus sur la psychanalyse elle-même, mais bien plutôt sur les psychanalystes qui étaient incapables de définir eux-mêmes ce qu'est la psychanalyse. Quand on s'aperçoit des compromis qui étaient passés entre les didacticiens de tous bords pour faire nommer leurs élèves. Donc Lacan, lui, après cette fondation, pas très longtemps après, puisque c'est seulement 2 ans plus tard, donc là on est en 67, il invente le fameux dispositif de la PASS. On voit bien pourquoi s'inscrire, dans quelle logique ça s'inscrit, cette nécessité, cette invention, pour tenter de répondre à cette question. C'est-à-dire que c'est le psychanalyste qui doit répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est que la psychanalyse? Eh bien, c'est le psychanalyste qui doit le dire, ce que c'est. Alors, c'est évidemment pas étonnant que ce texte, en 64, ce texte qui avait été écrit dans l'encyclopédie médico-chirurgicale, variante de la cure type, bien, ce texte soit retiré de cette encyclopédie en 64, c'est de 55 retiré en 64. Non, un peu plus tôt, mais enfin, ça présageait de son exclusion. Donc, tanné par cette question de la formation du psychanalyste, qui le poursuit depuis le début de son enseignement, qu'est-ce qu'un psychanalyste ? Lacan, 3 ans plus tard, qu'est-ce qu'un psychanalyste? D'où la création de son école. En 67, 3 ans plus tard, établit le dispositif de la PASS. Il répond pas à la question qu'est-ce que la psychanalyse? Il répond qu'est-ce qu'un psychanalyste? Qui peut en témoigner? Ben, le psychanalyste lui-même. Et donc, il invente la PASS. C'est dans cette logique-là que ça s'inscrit. C'est tout à fait logique. C'était devenu indispensable. Il attend de celui qui se considère comme psychanalyste, pour avoir fait lui-même une analyse, qu'il s'explique sur son passage à l'analyste, à partir de sa propre cure, qu'il raconte comment il est devenu, et il est sommé d'expliquer comment il en est venu à s'y autoriser. Donc ça n'est plus le didacticien de l'IPA qui dit qui est psychanalyste ou pas, c'est le psychanalyste, puisqu'il dit, voilà, le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même, d'accord, mais qu'il s'explique comment il est devenu psychanalyste. Voilà pourquoi il invente la passe. Donc ça n'est pas quelque chose de gratuit, si vous voulez. C'est pas... Alors en 75, lorsqu'il se rend à l'Université de Columbia, il revient sur la question du contrôle. Et voici ce qu'il en dit. Il arrive que je fasse ce qu'on appelle des supervisions. Je ne sais pas pourquoi on appelait ça supervision. Alors il corrige. C'est plutôt une super audition. Donc il utilise le terme super audition qui fait évidemment plutôt valoir la dimension de la parole et de l'écoute plutôt que du regard. Et il ajoute ceci, j'ai quelquefois à répondre à des cas de ma pratique en, de pratique en institution. Dans cette fameuse supervision, que plus simplement nous appelons en français un contrôle, ce qui ne veut pas dire bien sûr que nous croyons contrôler rien, moi souvent dans mes contrôles, au début tout au moins, j'encourage plutôt l'analyste ou celui qui, ou celle qui se croit elle. Je l'encourage à suivre son mouvement. Je ne pense pas que ce soit sans raison, que non pas qu'il se mette dans cette position, c'est très peu contrôlé, mais je ne pense pas que ce soit sans raison que quelqu'un vienne lui raconter quelque chose au nom simplement de ceci, qu'on lui a dit que c'était une analyse. Ce n'est pas sans raison, parce qu'il en attend quelque chose. Donc, il dit, au début, quand je reçois quelqu'un, eh bien, je l'encourage plutôt. Alors, vous voyez cette remarque, ça c'est en 75, cette remarque nous renvoie à ce qu'il a formulé sur le contrôle lorsqu'il a fondé son école concernant les effets psychanalytiques sur les analysants. Et il ajoute quelque chose de plus précis dans ses conférences nord-américaines. Il dit ceci, il est très surprenant, donc vous verrez l'importance que ça, il est très surprenant qu'à travers ce qu'il nous dit, donc celui qui est contrôlé, on puisse avoir une représentation de celui qui est en analyse, qui est analysant. C'est une nouvelle dimension. En fait, il a, vous allez voir à quoi ça s'articule, ça. Il a dans l'idée que quand il reçoit quelqu'un en contrôle, un psychanalyste en contrôle, eh bien, il a dans l'idée, il s'aperçoit qu'il peut se faire une idée de l'analysant dont l'analyste parle, si vous voulez. Donc, et il dit que c'est surprenant, ça. Donc, je vais retenir cette phrase, j'allais dire, en réserve. Vous allez voir pourquoi cette phrase est quand même très importante. Mais au fond, Lacan évoque régulièrement le problème du contrôle dans son enseignement. On pourrait reprendre tout ce qu'il donne comme conseil aux analystes. Il y en a des tas. C'est difficile d'être exhaustif. Comme par exemple dans le séminaire 3, dans lequel il nous conseille de nous garder comprendre trop vite. Dans le séminaire 23, c'est-à-dire 20 ans plus tard, sur le saint homme, Lacan compare les analystes débutants à des rhinocéros. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les rhinocéros? Ce sont des animaux qui sont quasiment aveugles et qui attaquent à l'aveuglette, si vous voulez. C'est vache, quand même, de dire ça. Et qui sont guidés par leurs oreilles, vous voyez. C'est intéressant aussi. Ils font à peu près n'importe quoi, dit-il, et je les approuve toujours. Donc, il a très tôt considéré que le psychanalyste n'analyse pas avec le contre-transfert. Donc, il faut que je reprenne cette question aussi, ce qui reviendrait à analyser avec son fantasme. Quand je dis contre-transfert, quand je le lis, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut entendre, avec son fantasme. Alors, il y a Graciela Brodsky, qui a été présidente de l'AMP un certain temps, qu'on a écoutée à Bruxelles aussi il y a un certain temps, et qui souligne qu'un nombre important de psychanalystes de l'IPA considèrent que l'analyste, en tant que sujet, fait partie du dispositif analytique et que ses effets subjectifs à lui constituent l'outil le plus important pour la direction de la cure. Donc c'est considéré qu'effectivement on analyse avec son, avec le contre-transfert, avec sa propre subjectivité. Alors c'est ce qu'ils appellent le contre-transfert. Nous, on dirait plutôt qu'on analyse avec son fantasme. Pour nous, par contre, dit-elle, l'effet subjectif doit être traité ailleurs. Vous voyez qu'on situe là une différence. Une différence, donc ailleurs, en dehors de la pratique. Et là, on situe bien quand même que ça doit se passer soit où ça ? Soit dans le cadre de sa propre analyse, le psychanalyste, dans le cadre de sa propre analyse, évoque ces questions-là. Il est question plus fantasmatique, si vous voulez. Ou dans le contrôle.
Et le contrôle peut le mettre en lumière.
Voilà, ou le contrôle mettra ça en lumière. Si on a le temps, on pourra reprendre. J'ai un exemple très concret de ça, vous allez voir après. Alors maintenant, quid du contrôle à l'ère de la cure analytique orientée par le saint homme ? Donc, je suis allé lire dans la littérature de l'EMP ce qu'on a écrit sur le contrôle et sur la formation d'analyste. Et je me suis aperçu, au fond, qu'il y a autant de contrôles différents et de styles différents qu'il y a de contrôlés. Il y a des gens qui vont en contrôle et qui ne sont pas psychanalystes, et pourquoi pas. Il y a des gens qui sont en analyse et qui vont en contrôle. Il y a des gens qui ont fait une analyse et qui vont en contrôle. Puis il y a aussi des gens qui ne vont pas au contrôle. Hein. Donc je vais épuiser quelques remarques qui vont nous éclairer sur la fonction de contrôle. Je voudrais faire valoir deux points parmi d'autres que Gracia Labosky mettait en évidence dans un article qui a été publié dans Quarto 76 et qui concerne la formation du psychanalyste et plus précisément dans le cadre du contrôle. Donc la formation du psychanalyste dans le cadre du contrôle. Elle souligne ceci, avec quoi je suis complètement d'accord. Les effets de formation, donc la formation n'est pas une formation continue, si vous voulez. Les effets de formation sont plutôt des moments de rupture, précise-t-elle, sont la conséquence d'une rencontre, donc la contingence, qui relève d'une faille dans le savoir, qui ne peut pas se refermer avec du symbolique. On ne peut pas. On ne comprend pas. On a plutôt affaire à un « je ne comprends pas ». Là où on pensait avoir compris. Eh bien, vous n'avez rien compris. La conséquence de ces rencontres est un effet de division subjective. On reviendra là-dessus aussi. Alors, Éric Laurent commente la phrase que Lacan a prononcée en Amérique du Nord. Il est très surprenant qu'on puisse à entendre ce que vous avez raconté un praticien, surprenant à travers ce qu'il nous dit, on puisse avoir une représentation de celui qui est en analyse, qui est analysant. C'est une nouvelle dimension, disait Lacan. En quoi est-ce une nouvelle dimension ? Alors, Éric Laurent fait remarquer que cette précision de Lacan laisse entendre que ce qu'il a dit de la formation d'un analyste, je n'ai pas parlé de formation de l'analyste, j'ai parlé de formation de l'inconscient. Ça, c'est aussi une phrase très compliquée à saisir. Je n'ai pas dit ce que c'était que la formation d'analyste, je n'ai pas parlé de formation d'analyste, j'ai parlé de formation de l'inconscient. Eh bien, ça n'a été que partiellement compris, dit Éric Laurent. Ici, avec cette précision que je vous ai lue là tout de suite avant, de Lacan, hein, on peut se faire une idée de l'analysant dont parle le contrôlé quand il vient en contrôle, dont parle le psychanalyste quand il vient en contrôle. Eh bien, il y a une précision dans cette phrase de Lacan. Je ne parle pas de formation de psychanalyste, je parle de formation de l'inconscient. Il laisse entendre qu'il se passe quelque chose d'analogue à ce qui se passe dans le dispositif de la passe, si vous voulez. Il y a quelque chose de l'ordre d'une transmission. dont, de la base dont vous avez entendu parler, je suppose, on en a sûrement parlé ici. Hein. Dans, au fond, il compare le dispositif de contrôle, Éric Laurent, au dispositif de la passe, au fond, mais du côté du passeur. Dans le dispositif du contrôle, on retrouve aussi cette dimension de la transmission d'informations, déformation de l'inconscient. Comme le passeur transmet les formations de l'inconscient au jury de la passe, eh bien, le contrôlé se situe dans une dimension analogue. Le contrôlé fait l'effort de transmettre au contrôleur les formations de l'inconscient de son analysant. Et on comprend la portée de la phrase de Lacan. On peut se faire une idée des formations de l'inconscient de l'analysant dont vient vous parler le psychanalyste. Alors, Serge Côté, lui, met en lumière deux dimensions importantes du contrôle. Et au fond, je vais commenter ça tout de suite après. Alors, il parle d'une part des impasses épistémiques, d'une part, et des impasses subjectives, des effets de vacillement, si vous voulez, sur l'analyste lui-même, de l'autre. Il distingue les impasses épistémiques et les impasses subjectives. Si vous vous rappelez de la façon dont on parlait du contrôle du temps de Freud, il y avait l'école de Berlin qui s'intéressait uniquement aux questions épistémiques. Et puis, les impasses subjectives, au fond, c'était plutôt Ferenc Ferenczi qui considérait que ça, c'était vraiment l'essentiel dans le contrôle. Mais Miller, donc, il nuance ça, quand même. Donc, Côté insiste, enfin, il fait cette distinction entre les deux. Alors, Miller, lui, Jacques-Alain Miller nuance ça. Il dit ceci. Il dit, dans son acte, le psychanalyste en position d'objet A. Il dit ça, donc, c'est dans les années 2000, hein. L'analyste en contrôle est en position de sujet. Donc l'analyste dans son acte est en position d'objet A. L'analyste en contrôle est en position de sujet. On apporte en contrôle sa division. Je ne sais pas si je dois reprendre ça pour mieux situer. Donc le psychanalyste n'est pas en position de sujet comme le laisse entendre au fond d'une certaine façon l'IPA. C'est-à-dire à partir du moment où on analyse avec le contre-transfert, on analyse avec son fantasme, on analyse avec sa propre division subjective, si vous voulez. Eh bien, niet, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, Lacan souligne, il est en position d'objet A, dans le dispositif analytique. Lorsqu'il vient en contrôle, c'est ce que j'avais dit l'instant d'avant, cette question de cette division subjective, il l'amène soit dans le contexte de sa cure analytique personnelle, soit en contrôle. Miller souligne ça. Quand il est dans le dispositif analytique, il est en position d'objet. Quand il est en contrôle, il est en position de sujet. On apporte en contrôle sa division. Alors que dans l'acte, on est supposé s'en abstraire. Le contrôle, ajoute-t-il, consiste dans une resubjectivation de l'analyste, qui vient là comme sujet barré, témoigner de son manque à être. Dans le contrôle, hein. Et donc les deux versants du contrôle, que j'évoquais juste avant, épistémique et subjectif, mettent de toute façon toujours le sujet en jeu. Quand quelqu'un vient avec des questions épistémiques, il vient en tant que sujet en contrôle. Et on peut dire que le contrôle produit des effets subjectifs qui en font une poursuite, c'est Miller qui dit ça, une poursuite de l'analyse d'une nouvelle façon. Le contrôle serait la formation infinie qui infinitise l'analyse. Dixit Miller. C'est vraiment très très intéressant de prendre les choses comme ça. Hein. Et donc, prendre en compte le réel, je poursuis ce que Miller dit, implique de prendre aussi le contrôle du côté de ses effets épistémiques. Donc, il commente quand même la distinction que fait Côté. Hein. C'est l'infinitude de la formation liée au cas par cas rencontrer au-delà de la finitude de l'analyse. C'est difficile à comprendre ça, parce que je peux la relire, enfin, cette phrase. Vous n'acquiescez pas. Je la relis. Voilà. Parce qu'elle est, elle est très belle. Hein. Il dit ceci, c'est l'infinitude de la formation liée au cas par cas quand on travaille les cas, hein, au cas par cas rencontrés, au-delà de la finitude de l'analyse. Donc il laisse entendre qu'il y a quelque chose quand même qui se termine de l'analyse. C'est parfois, dans certains cas, par la passe, par exemple. Mais il y a quelque chose qui se poursuit de l'analyse dans le cadre du contrôle. Donc, il n'y a pas de formation progressive, disait Graciela Brodsky de l'analyste. La formation de l'analyste est une succession de points de rupture, de discontinuité. Je vais aussi m'expliquer là-dessus. La formation de l'analyse, si la formation d'analyste est infinie, ce qui la caractérise, cette formation, c'est qu'elle se fait par rupture, par coupure. Ce sont les trébuchements qui guident les contrôleurs et l'analyste contrôlé. Au fond, il faudrait qualifier le psychanalyste d'analyste analysant. Être analyste, dit Jacques-Alain Miller, ne dispense pas d'être analysant. Et il précise encore, cette position d'analysant n'est pas à confondre avec le psychanalyste qui poursuit son analyse ou qui y retourne pour faire de nouvelles tranches. Donc ce n'est pas ça que ça veut dire. Hein. La position analysante implique plutôt que reste présente chez lui la passion de l'ignorance, que tout en étant analyste, qu'il poursuive ou pas son analyse personnelle, qu'il retourne ou pas à faire une tranche, eh bien, tout en étant analyste, il continue de se placer au point du « je ne sais pas ». Analyse sans fin et formation finie, ça c'était selon Freud, analyse infinie et formation finie, pourrait dire, ça c'est selon Freud, eh bien, à ça, rétorque Lacan, il faut dire analyse finie et formation infinie. Selon Lacan, une analyse peut se terminer. Mais la formation est infinie, précise-t-il. Elle n'a de sens que si elle veut dire que l'analyste analysant continue, sans le secours d'un analyste, d'être aux prises avec son « je n'en veux rien savoir ». Je pensais, j'ai par la suite, si on a le temps, on verra, on peut aussi laisser du temps à la discussion, hein. Mais j'ai gardé à part une situation précise décrite par Graciela Brodsky. Mais j'ai voulu vous parler de mon cas, d'abord, si vous voulez bien. Donc ce sont des effets de division subjective produits lors de moments de rupture dans le savoir que je voudrais justement, je vous ai dit ça tout à l'heure, que je voudrais mettre en évidence dans le parcours que j'effectue moi-même chez mon contrôleur. Alors, il s'agit vous allez voir, de deux points de rupture dans le savoir, justement, et qui s'articulent à deux moments précis de ma propre cure. Donc, ces effets de division subjective dont je vous parle, eh bien, sont corrélés chacun à une intervention de mon contrôleur. Donc, et je voudrais les mettre en évidence dans le parcours que j'effectue chez mon contrôleur. Il s'agit donc, disons, de moments contingents, de coupures, de ruptures. Et à chaque fois, la nature du savoir s'en est trouvée modifiée. Donc, cette nature du savoir, c'est ce qui était évoqué plus tôt. Hein, c'est le savoir donc épistémique ou bien la dimension subjective. Je ne serai jamais psychanalyste, m'étais-je entendu dire, proférer dans le cours de mon analyse. C'était caractéristique parce que les autres, après quelques dizaines d'années, disons, m'avaient dit, mais pourquoi tu n'exerces pas comme psychanalyste? J'avais dit, non, je ne serai jamais psychanalyste. C'était sans doute une dénégation. Hein. Me prêter moi-même à l'expérience avec un analysant qui m'en ferait la demande, eh bien, il m'a fallu du temps pour y répondre. Attendais-je le feu vert de mon analyste? Il n'est jamais venu. Quand était-ce donc? Était-ce à un moment précis de ma cure? Je ne vois pas. Je ne m'en suis pas aperçu au moment où je l'ai décidé. Mais c'est dans l'après-coup de l'acte, soit pendant mon mandat d'analyste de l'école, donc quand j'ai fait la passe et que j'ai été nommé AE, que j'ai réalisé que ce n'est qu'en ayant éprouvé une solitude spéciale, une solitude radicale, celle de la rencontre, au fond, qu'on pourrait dire du S1, de l'un tout seul, sans garantie de l'autre. Alors, et c'est à ce moment-là qu'il m'a été possible d'envisager de me prêter moi-même à l'expérience avec un sujet qui m'en ferait la demande. Peut-être je peux m'arrêter juste une seconde pour reprendre ça. Je l'ai déjà expliqué ici, ça. Mais c'est vraiment très important. Il n'y a pas de craie.
Si, elles sont juste au bout de la
tête. Ah, d'accord. Au fond, quand votre analyse vous dit « Parlez en roue libre, dites ce qui vous passe par la tête, sans censurer. » Comme ça, ne vous occupez pas de la logique. Non, non, parlez en roue libre. En fait, vous construisez une chaîne signifiante. Et on pourrait la résumer. C'est-à-dire que vous dites un mot qui est suivi d'un autre, qui est suivi encore d'un autre, etc., etc. Au fond, vous construisez du savoir en faisant ça. D'accord? Donc, on pourrait dire que le savoir est de ce côté-ci. Et ici, vous avez un signifiant à partir duquel vous démarrez votre construction. Et bien, comme ça, vous pouvez parler à l'infini, de cette façon-là. D'ailleurs, pour ça que Freud pouvait dire, parler d'analyse infinie. Si vous voulez, j'ai déjà pris cet exemple-là, je vais alors le reprendre. Hein. Si je vous dis chat, vous devez attendre que je dise faux, pour savoir que c'est d'un chapeau que je voulais parler. Et c'est seulement après coup, quand la phrase a été dite, qu'on pouvait dire « il y avait là un sujet qui voulait dire quelque chose, qui voulait dire chapeau. » Mais il peut continuer, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout dit quand on a dit chapeau. On doit encore dire autre chose. Pourquoi il a dit chapeau? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Où est son désir? Oui, et donc à ce moment-là, ça revoit encore à d'autres signifiants. Donc il y a de toute façon quelque chose, il y a un reste à ça. Eh bien, quand je vous parle de la solitude, si vous voulez, cette instance-ci du savoir, c'est aussi au fond l'instance de l'autre, du grand autre. C'est-à-dire que mon chapeau est entériné par le sens qui est produit au lieu de l'autre, voyez. Mais si maintenant, donc si vous continuez comme ça, vous continuez à l'infini jusqu'à ce que vous êtes mort. Il n'y a que ça qui arrête, si vous voulez. Tant que vous parlez, vous êtes vivant. Bon. Tant que vous parlez, vous jouissez. Quand vous ne parlez plus, vous êtes mort, vous ne jouissez plus. Eh bien, il y a un acte qui doit être posé à un moment donné quand même dans la cure. C'est pas au tout début, ça demande beaucoup de temps pour arriver à ça. Un acte analytique peut parvenir à couper ici, si vous voulez, entre S1 et S2. Et alors, ça a des effets étonnants, bouleversants, si vous voulez. C'est que ça isole le S1. Le S1, eh bien, il ne représente plus un sujet pour un autre signifiant. Il a une autre nature qui relève davantage de la lettre, si vous voulez, qui ne veut rien dire, qui n'a pas de sens, puisque on est coupé du sens. Le sens vient parce qu'il y a eu l'autre, si vous voulez. On perd le sens, on perd la boule. On isole ce signifiant tout seul. C'est ça la solitude radicale. C'est d'avoir approché cette dimension-là qui s'articule au symptôme à ce moment-là. Donc, il faut C'est de ça d'ailleurs que donc le psychanalyste doit pouvoir témoigner. C'est-à-dire, qu'est-ce que la psychanalyse? C'est la cure que fait un psychanalyste, et puis le psychanalyste n'a qu'à témoigner de ça. C'est de ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend de lui. Qu'il témoigne de ce moment où il a approché cette dimension du 1 tout seul, du S1. On peut en parler après, si vous voulez, après, parce que c'est peut-être dit comme ça trop, trop vite aussi. Hein. C'est-à-dire que là, eh bien, on n'a plus du tout la garantie de l'autre. On est... L'un tout seul, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'un sans la garantie de l'autre. Rien ne vient garantir ça. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis aperçu... Enfin, ça, je veux dire, c'est dans la passe elle-même, après coup. Je ne m'en suis pas aperçu dans le temps de l'analyse. Dans le temps de la passe 1, celle qui se passe dans le cadre de l'analyse. Je ne m'en suis pas aperçu. C'est après coup, quand il a fallu le formaliser, que je me suis aperçu, si vous voulez, de cette solitude radicale, et je me suis aperçu que c'est à ce moment-là, sans le savoir, que je me suis autorisé à occuper cette place moi-même. Cela, je l'ai compris après coup. C'est alors que je me suis aperçu de ces ruptures. Quand on parle de rupture, c'est ça. Ça vient... Comment ? Ça vient rompre le sens. Ça vient rompre la garantie de l'autre. Ça vient rompre tout sens, si vous voulez. C'est ça, ces moments de rupture. Quand on a l'impression qu'on a compris, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a compris ? Bon, on a mis du sens sur quelque chose. Eh bien, à ce moment-là, il y a une intervention de votre analyste ou de votre contrôleur qui permet de vous apercevoir que vous êtes complètement à côté de la plaque. Qu'il n'y a pas de sens là, justement. Ou qu'il y a autre chose, si vous voulez. Donc, rupture entre S1 et S2. Et qui ont eu pour conséquence chez moi de m'autoriser à occuper cette fonction. Et donc, je suis psychanalyste. Je m'y suis autorisé sans autre appui à ce moment-là, quand j'ai commencé, que la cure elle-même, puisque j'étais en cure à ce moment-là. Celui de l'analysant décidé. Et donc, lorsque j'ai commencé à recevoir, c'est alors immédiatement imposé à moi la nécessité du contrôle, dans le même mouvement, si vous voulez. Et cette phrase que j'avais dite dans le cours de mon analyse, « Je ne serai jamais psychanalyste », eh bien, elle aura, figurez-vous, des retentissements, vous allez voir de quelle façon, et des rebondissements dans un autre contexte, dans celui du contrôle lui-même. Dans le contrôle, au début... Vous voyez qu'on retrouve encore une fois ces deux versants épistémiques et subjectifs. Au début, pour moi, il s'agissait d'abord d'élaborer du savoir. Un savoir que je croyais être d'une autre nature que celui que j'élaborais dans ma cure. Dans la cure, on parle de papa, maman, tout ce que vous voulez. Pourquoi tout ça a pu se faire? Comment ça se fait que je suis devenu ceci, le directeur d'une institution, etc., etc. C'est de ça qu'on parle. Mais là, j'avais l'idée qu'il s'agirait d'un autre savoir que j'allais élaborer. Un savoir qui ne relevait pas du travail de ma cure. Et en effet, je considérais que j'étais sans savoir. Je considérais que j'avais tout à apprendre. Qu'il était par exemple nécessaire de me repérer dans les structures subjectives. J'étais avide de savoir. Le savoir référentiel, ça brillait pour moi. C'est une formation clinique que j'attendais avant tout du contrôleur. Et donc, cette position d'ignorance, si vous voulez, par rapport au savoir référentiel, cette position semble toute modeste, on pourrait dire, eh bien, elle ne faisait que voiler un autre point obscur que je voudrais mettre en évidence. Mon contrôleur m'avait dit, au début de mon travail avec lui, « Certes, vous dirigez une institution. » Diriger une institution, c'est une expérience. Mais cela n'a rien à voir avec l'expérience de la solitude de l'acte. Donc, moi, j'ai éprouvé la solitude en tant que directeur d'institution. J'étais tout seul dans mon bureau, tout reposait. J'avais j'étais plombé par la responsabilité de l'institution, tout seul, si vous voulez. Eh bien, lui, hop, d'un coup de cuillère à peau, comme ça, il mettait tout ça en l'air. Il me disait, diriger une institution, c'est une expérience. Mais ça n'a rien à voir avec la solitude de l'acte. J'en ai parlé juste avant de la solitude de l'acte. Hein. Être directeur d'une institution, même si elle se réfère à Freud et à Lacan, ce n'est pas être psychanalyste. Et pas, il m'a envoyé ça. Alors, cette intervention répondait à ce que j'avais mis en valeur lors d'un contrôle. Parce que lors d'un contrôle, donc mon expérience clinique en institution, je vais parler d'un enfant dans l'institution. Et donc, cette interprétation m'avait profondément bouleversé. Elle a eu pour moi un effet de division subjective, si vous voulez. Je ne comprenais pas de quoi il était question à ce moment-là. Je ne pouvais pas élaborer ce que je vous ai dit juste avant. Hein. Je vacillais, si vous voulez, de mon escabeau. Fallait-il que j'arrête ? Elle produisit une béance dans le savoir, et bien qu'il ne s'est jamais refermé. Est-ce que j'allais arrêter à ce moment-là ? Je l'ai bien dit dans la cure, je ne serai pas psychanalyste. Donc, la supposition d'un savoir nouveau dans la faille que produit cette première intervention du contrôleur inaugura un nouveau transfert. Et que ce soit un savoir référentiel, sachant rien à l'affaire. Parce que là, évidemment, je parlais, moi, je voulais savoir la structure de l'enfant dont je lui parlais. Eh bien, hop, lui, ce qu'il pointait, c'était le sujet qui venait lui parler. C'est donc de cette place de grand autre que j'attendais mon partenaire dans le lien que j'inaugurais. Je m'adressais, pensais-je, à un aîné, expérimenté, un autre en tant que tiers qui sait, qui a le savoir. Ce n'est pas à la place que je lui assignais qu'il s'installa, mon contrôleur. C'était en effet sans compter sur le désir de mon contrôleur, de mon contrôleur analyste, je pourrais dire, de la dimension singulière du contrôle. Cette interprétation, donc, être directeur, ce n'est pas être psychanalyste, renvoie donc à cette autre intervention que j'avais, ce que j'avais proféré dans le cadre de mon analyse. Je ne serai jamais analyste prononcé dans le cadre analytique. Et ça s'est articulé 10 ans plus tard, à 10 ans d'intervalle. L'interprétation de mon contrôleur eut lieu au début de mon travail avec lui. Et cette phrase de dénégation, je ne serai jamais analyste, prononcée dans le cadre analytique, elle a fait interprétation après la passe. Ça a été longtemps après. C'est la passe que j'ai. Alors j'ai attrapé ça, si vous voulez. Donc au-delà de la faille produite dans le savoir, toutes deux interrogent le désir de l'analyste. Pourquoi tu fais ça? J'aurais pu arrêter tout de suite, si vous voulez. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Cette phrase, difficile à entendre pour moi, prononcée dès les premiers entretiens, est restée gravée dans le marbre sans que j'en saisisse au début la portée. Bien que je ne m'en apercevais pas sur le moment même, elle faisait écho à cette autre phrase que je vous ai dite. Je ne serai pas psychanalyste parce que rien ne m'y a préparé, parce que je n'en ai pas la formation, parce que je ne sais tout simplement pas. Donc l'interpellation de mon contrôleur va inaugurer un transfert d'une autre nature que celui qui s'était instauré avec mon analyste. Il fallait en effet que je tire cette phrase au clair, que je tire cette histoire au clair. Et je suis donc resté en contrôle chez lui. Et j'ai poursuivi à cette époque-là mon analyse par ailleurs. Par la suite, il y a eu la passe 1. Alors c'est quoi la passe 1? Eh bien, c'est celle qui a lieu dans le cadre de la cure. C'est cette expérience de solitude radicale qui est marquée par le passage, au fond, de la fiction du sujet. C'est le passage de cette histoire que vous racontez, que vous blablatez, et patati et patata pendant des années. Hein. Cette histoire-là de papa, de maman, hein. Cette fiction du sujet supposé savoir à la vérité menteuse, eh bien, du passage à la solitude de l'un sans l'autre, sans garantie, de l'un tout seul, sans S1, sans l'autre, S1 coupé radicalement de l'autre, de la garantie de l'autre. C'est ce que moi j'ai appelé à ce moment-là, personnellement, ma traversée du désert. C'était une expérience intéressante aussi. Donc, j'ai pu formaliser ça pendant ma passe 2, si vous voulez, celle que l'on fait après, hein, une fois qu'on a décidé de la faire, la passe. Et ça m'a permis que ce pavé qui avait été jeté dans la mare par mon contrôleur au tout début de nos rencontres produisit encore des vagues après 15 années de contrôle. Pendant l'expérience de la passe 2, soit longtemps après coup, cette interprétation de mon contrôleur me revint à l'esprit. Au fond, je dirais, la modestie menteuse de l'ignorance que j'affichais au début me fit tout à coup entrevoir un point obscur. La solitude de l'un ne donne aucune garantie de la part de l'autre. Faire offre de psychanalyse constituait pour moi maintenant seulement un saut dans le vide, si vous voulez. Et j'en étais ébranlé. C'est précisément quand surgissaient ces effets de division subjective produits lors des moments de rupture dans le savoir, lorsque le contrôle révélait mes ratés, hein, mes achoppements, c'est lorsqu'il ébranlait mes constructions, mes assurances, mes constructions assurées, c'est lorsque je rentrais chez moi bredouille, avec cet affect de tristesse qui me faisait penser que je n'étais pas un bon psychanalyste, et que peut-être il fallait que j'arrête. C'est alors que je me disais qu'il fallait que je continue et qu'il fallait que je revienne le voir au plus vite. Mais ce n'est pas tout. C'est précisément au moment même où j'en étais à formaliser dans la passe 2 ce qu'il en était de mon expérience de cette solitude de l'un dans la cure, autant donc de la destitution subjective, donc du moment où je quittais mon analyste, c'est alors que le transfert avec mon contrôleur prit une consistance plus forte encore et se renforça. Cet autre transfert qui s'était installé pendant la cure analytique, au moment où je décidais de recevoir, s'est interrompu avec la passe et ma nomination. Donc, en fait, j'ai arrêté mon analyse avec mon psychanalyste, avec la passe, si vous voulez. Je ne suis plus retourné le voir. Mais il y a eu quelque chose qui s'est instauré avec mon contrôleur, dans le cadre du contrôle, qui s'est renforcé. Il s'est renforcé à tel point que cet attachement spécial, donc avec le contrôleur, ce transfert à mon contrôleur, est devenu la question même qui s'est alors posée lors des séances de contrôle. Cette question, elle s'est précisée en fait quand j'en parlais avec Anne-Lizy et que je formulais mon projet d'organiser pendant mon enseignement d'AE lors d'une soirée de contrôle. Et alors je me suis aperçu que le contrôle ne venait pas à la même place pour elle. Lors du contrôle qui suivit cette rencontre, j'en parlais à mon contrôleur. Qu'étais-je venu chercher chez lui? Qu'est-ce qu'il était pour moi? Il fallut éprouver, pour toute seule réponse à ma question, un interminable silence de mon contrôleur pour que je m'aperçoive que c'était précisément la garantie de l'autre dont je ne pouvais me passer. Et lors de cette séance, je me suis aperçu alors que ce qui faisait le pivot de mes séances de contrôle, c'était le désir du contrôleur, et que ce n'était pas autre chose, ce désir du contrôleur, eh bien, ce n'est pas autre chose que le désir de l'analyste lui-même. C'est le désir de l'analyste. Pourquoi me dit-il cela? Que suis-je pour lui? Il fallut un certain temps pour saisir que les interventions du contrôleur, de mon contrôleur, s'inscrivaient avant tout dans la dimension de l'énonciation du contrôleur, dans l'énonciation, pas à l'étage de l'énoncé. Le contrôleur s'intéressait à l'énonciation de celui qui s'adressait à lui et non à son énoncé. Cette orientation de l'entretien par le contrôleur sur mon énonciation allait m'amener à m'interroger sur le désir de l'analyste et de son acte. Le contrôle ne vous garantit pas de l'autre. Le contrôle ne peut pas assurer la garantie de l'autre. Bien au contraire, il ne peut que vous renvoyer à la solitude de l'acte. Pas de leçon donc à attendre du contrôle, si ça n'est celle-là. Et à cet égard, le contrôle relève lui-même du discours analytique et de l'acte analytique. J'avais fait remarquer tout à l'heure que Miller ne disait pas autre chose. Hein. Le désir de l'analyste dans l'espace singulier du contrôle se branche avant tout sur l'énonciation de celui qui vient à la rencontre du contrôleur. Le silence insistant du contrôleur à l'endroit de ma question vient en position d'agent dans le lien entre les partenaires du contrôle. Et l'effet qui s'en obtient, c'est la séparation d'avec le savoir. La séparation d'avec le savoir. Si vous voulez, le discours de l'analyste, il s'écrit comme ceci.
Mais voilà, je vais passer dans la salle pour si vous avez des questions ou si vous voulez prendre la parole simplement. Je vais peut-être commencer par deux, trois choses dont j'ai pris note en vous écoutant, Bernard. Peut-être au début de l'exposé, juste ce qui m'est venu par l'image que vous soulignez de la place du didacticien à l'IPA, qui est aussi l'analyste du candidat psychanalyste. C'est qu'au fond, on est aussi là dans quelque chose qui serait de l'ordre justement d'un mythe de la complétude, quelque chose qui n'est pas décomplété.
Oui, oui, peut-être encore que ça, ce n'est pas ça que je conteste. Hein. Je pense que beaucoup de psychanalystes vont chez leur analyste en contrôle. Mais ce n'est pas ça que je conteste, ça dépend. Enfin, même si Miller dit qu'il vaut mieux que ce soit ailleurs. C'est pas ça que je conteste, c'est tout ce qui va avec, c'est-à-dire le contre-transfert comme étant le pivot, si vous voulez, de tout ça, et donc la décision qui est prise par le psychanalyste lui-même de l'avenir de ça, donc de ce que son analysant deviendra psychanalyste. C'est pas comme ça que ça se passe dans l'école de Lacan. C'est pas le psychanalyste qui décide ça. Il y a une procédure pour ça.
Alors, il y a une autre chose que vous avez dit qui, je ne peux pas m'empêcher de réagir parce que ça fait écho à l'expérience curieuse que j'ai vécue vendredi, puisque vendredi, j'ai participé au premier symposium de la commission des psychologues qui avait lieu à Bruxelles. Et je me suis dit, ben voilà... j'ai un diplôme de psychologue, je vais aller voir ce qu'il raconte. C'est aussi une façon de prendre l'information, parce que évidemment, ça rencontre les questions que nous nous posons dans notre champ. Pas du tout de la même façon, mais c'est intéressant de savoir ce qui se dit là-bas. Et donc, quand vous avez dit tout à l'heure qu'au fond, une des questions de Lacan, c'était... comment ne pas voir, c'est ce que j'ai noté ici, que le contrôle s'impose pour, à travers le récit que fait le contrôlé, notamment pour protéger le patient, vous l'avez dit comme ça, ça m'a fait vraiment rire intérieurement et écho à ce que j'ai entendu, puisque la question qui se pose, et vous l'avez peut-être entendu aujourd'hui dans la presse, la question qui se pose dans cette commission des psychologues, c'est effectivement comment protéger le patient. Mais la réponse est tout à fait autre, c'est-à-dire que la réponse qui est donnée là-bas est de l'ordre, il faut la reconnaissance d'un titre, il faut la reconnaissance d'une formation pour bien faire organisée par les universités, il faut l'établissement d'une déontologie et d'un ordre qui juge de la déontologie des psychologues. Donc, je trouvais que juste ce que vous ameniez là montrait la faille radicale, me semble-t-il, mais qui du coup doit nous interroger au regard de ce que Maggie de Bloch essaye de remettre dans l'abattement, si je peux dire, des acquis de la loi de 2014. Elle détricote tout ça, finalement. Donc voilà, je trouve que c'était vraiment important de pouvoir souligner cet écart que vous avez très bien mis en évidence.
On comprend, à partir de ce que dit, on comprend quand même mieux pourquoi il ne faut pas rentrer là-dedans, dans ce que Maggie de Bloch a voulu mettre en place. En fait, là, on est sur un autre terrain. Mais jusque-là, ce que veut faire Maggie de Bloch ne me dérange absolument pas du tout. Parce qu'elle n'intègre pas les psychanalystes dans son histoire à elle. Jamais elle n'a parlé des psychanalystes. D'une part, enfin, je m'institue, peut-être je me trompe, hein, mais non, ça je suis sûr, elle n'en parle pas. Et donc, les psychanalystes ne sont pas des psychologues. Alors, le psychologue, s'il veut faire une analyse, il apprendra peut-être d'abord que ce qu'il a appris à l'université, ça ne vaut pas dans la psychanalyse. Bon. Mais donc, les psychanalystes ne sont pas les psychologues ne sont pas des psychanalystes, et les psychanalystes ne sont pas d'abord psychologues. Hein. Ça, c'est une chose. Et donc, il y a eu cette proposition de loi, enfin, je ne sais pas comment on l'appelle, si c'est une loi. De toute façon, ce qu'elle a dit vendredi dernier, c'est aussi que ces propositions s'appuient, reposent sur la loi de 2014. Donc, cette loi existe, alors elle va détricoter une partie. Ce qu'elle va détricoter, c'est, c'est qu'en fait, les psychothérapeutes, comme profession, n'existeront plus. Il n'y aura pas de profession de psychothérapeute. Ça ne me dérange absolument pas du tout. Ça n'est pas mon affaire. Moi, je ne suis pas psychothérapeute. D'abord, ici, on le dit, on ne guérit pas. Hein, c'est tout. On ne vise pas ça. Donc, ça ne me dérange absolument pas du tout. Qu'elle dise, il n'y a pas la psychothérapie, c'est autre chose. Alors, elle peut être exercée par des psychologues, des orthopédagogues et des médecins psychiatres, plus précisément. Hein. Tant mieux, après tout. C'est son affaire. Mais elle ne dit pas que les psychanalystes doivent rentrer là-dedans. Donc qu'elle fasse sa petite cuisine de son côté, ça ne me dérange absolument pas du tout. Ce qui me dérangerait, c'est qu'elle se mêle, qu'elle veuille mêler les psychanalystes là-dedans. Ce que nous on a obtenu avec la loi de 2014, c'est que explicitement la psychanalyse et les psychanalystes ne sont pas concernés par la loi de 2014. Ça a été dit très clairement par la ministre de la Santé à l'époque, Laurette Onkelis. Mm-hmm. Si la loi de Maggie de Bloch s'appuie sur la loi de 2014, la loi de 2015, si elle s'appuie sur la loi de 2014, hein, si elle ne fait pas une nouvelle loi, mais elle aménage l'ancienne loi, la question que moi je me pose, j'ai peut-être la réponse, je n'en sais rien, c'est qu'alors, ce qui a été dit en 2014 par Laurette Ongelings vaut toujours, puisque cette loi, ça a été dit, et cette loi n'est pas purement et simplement éliminée. Donc, en principe, mais il faut le vérifier, il faudrait qu'un juriste me confirme ça. Donc, en principe, si Maggie de Bloch, Madame la Ministre, n'évoque pas les psychanalystes et la psychanalyse, alors ce qui a été dit en 2014 vaut toujours. Et moi, je m'en fous pas mal. Je ne suis pas psychothérapeute. Je ne suis d'ailleurs pas psychologue non plus. Ni psychiatre. Donc, voilà.
Oui, disons que la question que ça posait pour moi, justement, en entendant les exposés et le débat qui a eu lieu après, est la question, mais qui n'est pas la question de la psychanalyse, ça je suis bien d'accord. Mais enfin, je pense qu'il y a questionné certains d'entre nous à certains moments aussi, du statut au niveau de la psychothérapie, de ce qu'on appelle la psychothérapie psychanalytique.
Oui.
Et donc, une des questions, notamment de gens de la SBP, si je me souviens bien, était... voilà. Est-ce qu'il y a maintien des quatre orientations qui avaient été soutenues dans la loi de 2014, oui, qui comprenaient systémique, psychanalytique... Oui. Voilà, donc
TCC
et donc
alors, elle a répondu à ça?
Non, elle a dit les textes sont en étude. Voilà. Elle n'a pas répondu.
Ce qui serait intéressant. Mais là, ça serait autre chose, évidemment. Hein. Mais il faut sûrement pas que les psychanalystes se battent pour être connus comme psychothérapeutes.
Ça, j'en suis convaincue aussi.
Pas du tout ça.
Voilà.
Puisque ça se fonde plutôt sur le non-savoir et pas sur le savoir.
Voilà. Ce qui n'était pas du tout l'orientation de ce débat.
C'est tellement éloigné de votre
propos que je trouvais que ça valait la peine d'être souligné. Il faudra voir
si effectivement dans les formations, pas des psychothérapeutes, puisqu'il n'y aura plus de psychothérapeutes. Hein, dans les formations à la psychothérapie, vous voyez la nuance. Hein,
oui.
Dans la formation à la psychothérapie, il sera prévu, je ne sais pas, un espace pour la psychothérapie d'orientation analytique. Hein. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le psychanalyste. Ça.
Oui, et il ne faut pas que ça fasse retour de boomerang vers une assimilation. C'est à ça qu'il faut être vigilant, oui, à mon avis. Oui. Je vais passer le micro dans la salle.
Je suis tout à fait d'accord. En fait, il vaut mieux que la psychanalyse ne devienne pas un adjectif au niveau du cabinet. C'est pas une bonne chose.
Il ne faut pas la pousser à ça.
Non, voilà. Absolument, il ne faut pas lui donner de mauvaises idées, c'est certain. Voilà. Elle en a suffisamment toute seule. Je vais poser une question, dans le fond, sur cette différence que tu prends en discours analytique. Tu es bien tout à fait d'accord, cette différence entre S2, entre le savoir et le signifiant maître. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire jouer la différence entre A et S barré.
Ah, sûrement, oui.
Notamment par rapport au savoir. Là, dans un texte de 74, au journal italien Panorama, qui est paru dans la revue de la cause freudienne récemment, Lacan a cette phrase formidable, il dit que l'analyste n'a pas d'idée et ne pose pas de questions. Miller fait remarquer aussi quelque part que comme analyste, s'il y a bien quelque chose, il a dit quelque part comme ça, que je m'arrange toujours pour ne jamais poser de questions. C'est que il dit même qu'il n'y a pas de questions à poser dans l'exercice même de la psychanalyse, justement. Et c'est bien pour ça que c'est une position tout à fait émolliante, voire endormante. C'est qu'il y a quelque chose de... C'est assez éthique. Et donc, la resubjectivation, comme tu dis, est nécessaire, parce que si aller en contrôle était aller au cours, aller en cours, en gros, il n'y aurait pas de resubjectivation du tout. N'est-ce pas? Et ce qu'on va faire en contrôle, tout de même, semble-t-il, sans tendance, ça me revient comme ça, c'est que on va poser les questions, enfin, on va mettre au travail les questions qu'après tout, la pratique peut avoir, que le cas pose. Mais les questions, on va les poser, on les met au travail en contrôle.
Oui.
Hein? Et en produisant, il s'agit que le contrôle, ce n'est pas un cours, mais c'est l'exercice du contrôle permet qu'on produise à partir de ces questions, à savoir. Si on écrit, donc c'est la resubjectivation du contrôle, il faut donc faire un quart de tour du discours, ça revient à un discours hystérique, est-ce barré en position d'agent, et là on voit que le savoir est une production,
voilà, oui,
du contrôle, et non pas, enfin, je ne sais pas comment dire, enfin, c'est produit par rapport au cas dans le contrôle, et ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher tout fait comme... Sans ça, le contrôle serait une université. Serait universitaire, ce qui n'est absolument pas. C'est justement ce terme de resubjectivation est fort utile aussi en l'opposant A et S barré.
Oui, c'est ça.
Parce que Lacan le dit à sa façon, lui. L'analyste n'a pas d'idée.
Oui.
Ça, c'est le patient qui doit les avoir. Enfin, pour ce que valent les idées, et ne pose pas de questions. C'est frappant, cette phrase. L'analyste ne pose pas de questions. Frappant, voir que Miller reprend ça à sa façon aussi. Parce que c'est trop coûteux dans la position analytique de poser des questions. Il y a le sujet supposé savoir, ça ne pose pas de questions, ça.
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais au fond, ça vient aussi en réponse... ça vient aussi, pas en réponse, parce qu'il n'y avait pas de réponse justement à ma question. Il n'y avait pas de réponse, il y avait le silence de l'analyste qui était là. Il n'y avait pas de réponse à attendre de la part de l'analyste. Il ne pose pas de questions, mais il n'en donne pas non plus.
Voilà.
Il ne donne pas de réponse non plus. Il n'a pas d'idée.
Mais l'analyste qui va en contrôle, justement, là, il peut. Là, c'est son moment.
Exactement.
C'est son moment,
exactement.
Pas de revanche,
exactement.
Mais de resubjectivation. Voilà, il revient à la vie et il va poser ses questions, il va se tracasser.
Il s'hystérise.
Oui, c'est bien nécessaire pour rester quand même au compte. Pour ne pas, sinon, il plonge dans. Non, il plonge dans ne sait pas quoi.
Mais alors, tu es d'accord avec ce que je
dis,
tout cas, de mon point de vue, qu'il y a comme une sorte de recouvrement et de prolongation du dispositif analytique.
Voilà, exactement.
Tu es d'accord avec ça?
Tout à fait. Et faire tu parlais des ruptures, dans le fond, ce qui est la rupture, c'est d'accepter de faire l'analyse. Parce que là, pour le coup, c'est là qu'est la rupture.
Oui, c'est ça.
Sinon, il y a plutôt, tu dis, une continuité.
Oui. Non,
c'est pas une question, c'est plutôt une.
Je
fais chorus.
Oui, je trouve ça fort intéressant parce que, en fait, on peut se dire, quand on a, au fond, raconté toutes ces. Enfin, quand on a fait chuter le pathos de son histoire, quand on a raconté tout ça et qu'on s'aperçoit qu'au fond, après tout, ça n'est que de l'histoire, enfin, ça n'est que de la fiction, si on veut. Alors on se demande encore, on arrête, c'est à ce moment-là qu'on arrête, qu'on termine son analyse. Mais alors qu'est-ce que ça devient là? Que devient la supposition de savoir? Eh bien, il y a cette sorte de glissement à un autre niveau. C'est pour ça que Lacan peut dire qu'une analyse est toujours didactique. Elle forme, enfin, on s'arrête, on pourrait partir, c'est d'ailleurs ce que beaucoup font après tout, ils ont fini, ils ont fait un bout. Mais s'ils vont jusqu'à ce point-là, ils ne peuvent pas arrêter. Il faut qu'il continue autrement, si tu veux. Et le cadre du contrôle se met là.
Sauf que le patient, c'est plus eux-mêmes quand ils vont en contrôle.
Oui,
mais c'est une façon d'être sujet sans qu'on soit le patient.
Oui,
c'est ça qui est. C'est une association libre sur un autre sujet que soi. Mm-hmm. Enfin, sur une autre personne.
Oui, enfin,
sur quelqu'un d'autre que soi, voilà.
On est trois. Oui, voilà.
On peut peut-être continuer avec les autres éléments.
On a le temps?
Ou on en reste là?
Oui.
Plus personne ne veut prendre la parole?
On peut. Je n'ai pas compris.
C'est comme vous voulez,
comme
Bernard.
Je veux, oui. Ouais, j'avais préparé un cas clinique, mais non, je vais essayer de le déplier, bien qu'il ne soit pas nécessairement facile à saisir. Hein. Donc c'est un exemple clinique qui est intéressant et qui est justement basé, qui se fonde sur le désir de guérir, le désir de soulager ou d'éviter la souffrance, et qui est en fait, ça il faut bien le dire, on répond aussi à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est l'un des plus grands obstacles. Dans la formation de l'analyste. Donc, c'est un analyste, un psychanalyste qui se présente lors d'un contrôle et qui présente un cas pour lequel il a un doute sur le diagnostic. Alors, c'était un homme qui était habitué au succès et qui était tourmenté par le lien avec les femmes. Il en avait toujours plusieurs et il voulait les contenter toutes. Ce qui le menait à travailler toute la journée afin d'y réussir. Mais ce qui inquiétait l'analyste, dans celle qui vient en contrôle, c'est une dame, c'était pas ça, mais c'était les rencontres en cachette de cet homme avec des inconnus dans les toilettes publiques. Et l'analyste raconte qu'elle a présenté le cas minutieusement et qu'au bout d'un moment, elle obtient pour toute réponse « Vous aimez beaucoup votre patient ». Oui, c'est un peu inattendu. Et apparemment, elle a beaucoup insisté pendant ce contrôle et elle a été rassurée au sujet du diagnostic. Donc, elle venait pour demander un diagnostic. Toute la réponse qu'elle reçoit, c'est ça. C'est « Vous aimez beaucoup votre patient ». Elle insiste. Elle obtient quand même donc, une réponse. Hein. mais elle reste quand même complètement divisée par la réponse de son contrôleur. Et puis, ce n'est que quelques jours plus tard qu'elle se rappelle de ce qu'elle a pu dire pendant ce contrôle. Et elle avait commencé son contrôle justement par ceci. Elle avait dit que ce monsieur, c'était un homme brillant et qui avait un avenir prometteur. La dimension métaphorique de ça quand même. Mais sa compulsion à passer le jour et la nuit à guetter les femmes lui prenait toute sa vie. Elle avait ajouté ça. Donc elle dit, d'une part, il est brillant et prometteur, mais enfin, ce qui est gênant quand même, c'est qu'il passe sa vie comme ça à guetter les femmes. Et donc, elle situe dans cette réponse de son analyste, vous aimez quand même beaucoup ce patient, elle situe une première rupture, si vous voulez, une division subjective, et un premier gain de savoir au moment où elle comprend deux choses. La première, que ça lui a permis de localiser que sa place dans le transfert, loin de, si vous voulez, de déranger la défense chez cet homme, ça renforçait l'incidence pour cet homme d'avoir été un enfant trop aimé. Donc, après, elle s'aperçoit de ça. Et la seconde, reconnaître que souhaiter le bien du patient n'avait rien à voir avec le bien de l'autre, mais avec la satisfaction narcissique, sa propre satisfaction narcissique à elle. Quelques années plus tard, elle décide, cette analyste, de présenter son cas à l'occasion des journées, enfin, comme on a l'habitude de le faire, de démontrer ce que c'est que le désir de guérir. Et elle veut présenter une interprétation, quelque chose qu'elle a effectivement dit au patient, et elle se rappelle l'épisode suivant. Elle rencontre le patient dans la rue, au dehors de la séance, si vous voulez. L'homme est en train de parler au téléphone. C'est dans une cabine téléphonique. À ce moment-là, il n'y avait pas encore le portable. Et il consacrait d'ailleurs une bonne partie de ses journées à cette activité, parler au téléphone. Et l'analyste, en le croisant, lui dit, donc c'est en espagnol, il lui dit « al pie del canon ». Ce qui veut dire, au fond, d'une certaine façon, donc, littéralement, au pied du canon. Ou encore en français, on pourrait dire quelque chose du style toujours prêt à tirer. Ou bien l'arme au pied, quelque chose comme ça. Ça signifie toujours être prêt, préparé à accomplir son devoir, à se battre, si vous voulez. Alors, quand l'analyste demande pourquoi elle se souvient spécialement de cette interprétation qu'elle a faite dans la rue, elle comprend que le désir de guérir, au moins dans ce cas-là, eh bien, cachait autre chose. Donc ça vient voiler autre chose. Ça vient voiler ceci chez elle, c'est pas seulement la satisfaction narcissique de vouloir guérir son patient, mais surtout une identification phallique. Et ça, c'est le plus grand obstacle, c'est-à-dire qui occupe la place normalement de l'objet dans le discours. Dans ce cas, c'est le progrès de l'analyste, de l'analyse, dans sa propre analyse, elle a repris ça dans sa propre analyse, qui lui a permis de comprendre où elle était embrouillée. Alors, en quoi ça vient, elle se met en position phallique, si vous voulez, à ce moment-là. Donc, quand elle dit ça, c'est-à-dire dans un premier temps, son contrôleur lui dit « Vous aimez cet homme ?» Elle était branlée par ça. Elle ne sait pas pourquoi elle était branlée par ça. Elle dit c'est du fait du désir de guérir. Mais il y a autre chose derrière ça. Désir de guérir, ça vient simplement indiquer en quoi elle occupe, par rapport à cet homme, la position phallique, si vous voulez. Quand elle s'aperçoit que quand elle dit à son contrôleur... Il est promis à un bel avenir. Ça dit quelque chose d'elle-même en même temps. Il est promis un bel avenir par rapport aux femmes, par rapport à elle-même. Et donc, souhaiter la guérison de son analyste, c'est souhaiter
que son analyste.
Son analysant. Oui. Souhaiter qu'en fond. elle soit quelque chose pour lui, si vous voulez. Hein, c'est ça qu'elle veut.
Ce qui lui manque.
Ce qui lui manque. Mm-hmm. Voilà, position phallique. Mm-hmm. Ce qui lui manque à lui. Mm-hmm. D'accord. Mm-hmm. Mais alors, on comprend mieux pourquoi elle ajoute à cette phrase il est promis un bel avenir, sauf que quand même il va voir, il a ses petites activités, beaucoup de femmes, voilà. Hein. Ça, ce qui met alors tout ce travail de l'analysant, celui qui va dans les toilettes voir un peu les femmes, hein, dans une position de d'acting out, si vous voulez. C'est-à-dire, mm-hmm. Il fait ça, lui, en réponse à son analyste qui veut simplement sa guérison. Guérir de quoi ? De ne plus aller voir. Il est promis un bel avenir, mais qu'il puisse guérir de quoi ? D'aller voir les femmes dans les toilettes. Mm-hmm. Hein ? C'est ça son désir de guérir. Donc ça le pousse seulement à ça, si mm-hmm. vous voulez. En occupant la position phallique, en occupant cette position d'être quelqu'un qui brille pour lui, pour cet homme, eh bien, ça le pousse, lui, à l'acting out, c'est-à-dire d'aller voir dans les toilettes les femmes, si vous voulez. C'est ça que ça veut dire. Puisque sa réponse, ça serait ceci, si vous voulez. L'erreur dans l'interprétation, quand elle dit à cet homme, comment elle dit ça en espagnol, hein, al pie del monte del canon, donc toujours prêt, hein, eh bien, sa réponse, c'est quoi ? C'est le phallus, je sais où le trouver. Ce que je cherche, c'est autre chose. Voilà sa réponse. Voilà comment elle, en allant en contrôle, elle parvient à formuler ça, qui était quand même très voilé, si vous voulez, pour elle-même. Donc ça, c'est quand le psychanalyste et le contrôleur lui répond, vous aimez un peu trop cet homme. Ça vient toucher à quelque chose de cet ordre-là, mm-hmm. ce qui lui permet, elle, dans le cadre analytique, de reformuler ce qu'elle a pu dire, pourquoi est-ce qu'elle a été ébranlée par la réponse de son analyste, et s'apercevoir que son patient est bien passé à l'acte du fait de cette position dans le transfert, cette position par rapport à lui.
Il me semble que c'est une belle conclusion de notre cycle. Voilà, mais en tout cas, Bernard Seynave, merci beaucoup pour votre intervention.
Merci aussi.
Et merci à vous pour votre participation. Au revoir.